Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Tout pour investir et soutenir notre pays. C'est l'objet des prochaines minutes avec vous, Xavier Leroy. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur du pôle conseil et solutions chez Eti Finance. On va parler d'éthique, on va parler de finance avec vous. Très sérieusement, on va réfléchir à comment et bien soutenir notre pays d'un point de vue économique. Quelles sont les entreprises du CAC 40 en tant qu'investisseur particulier dans lesquelles c'est intéressant de mettre des billes pour soutenir notre pays? Alors, on va parler d'industrie, de désindustrialisation, mais aussi de réindustrialisation. Quelques chiffres peut-être pour cadrer notre sujet sur l'état du Made in France en 2024, peut-être, pour démarrer.
Alors, le Made in France, ce n'est pas uniquement la nationalité des entreprises. Le Made in France, nous l'avons mesuré dans ces travaux que nous avons conduits chez Eti Finance avec Vertigolab, qui est un cabinet de chercheurs spécialisé en économie et en retombées socio-économiques. C'est la richesse créée au travers, c'est le chiffre d'affaires moins les consommables, c'est-à-dire moins, ou avant la rémunération des salariés, des impôts et des actionnaires. Et donc cette richesse, c'est celle qui contribue bien entendu directement avec l'entreprise et indirectement dans la filière d'approvisionnement qui permet de créer de l'emploi, de créer des capacités à payer l'impôt, de rémunérer, on l'a dit, les actionnaires. Elle est importante, encore une fois, parce que c'est ce qui bénéficie directement à l'économie française. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, une entreprise française, toute son activité ne bénéficie pas nécessairement à l'économie. Et plus une entreprise est grosse, plus elle est internationale, forcément, plus elle a l'activité à l'étranger, plus elle a de filiales à l'étranger, moins elle contribue. Inversement, une boulangerie dans notre pays va avoir une création de richesse directe et indirecte qui est quasiment totale par rapport à son chiffre d'affaires.
Bon, ça explique une partie de l'hostilité de certains vis-à-vis des grandes multinationales, parce qu'on a l'impression qu'elles participent moins à l'économie de notre pays. Bah oui, en pourcentage, ça veut pas dire qu'elles y participent pas concrètement.
Alors, en valeur absolue, elles sont importantes. Le CAC 40, c'est quand même un ensemble d'entreprises qui, en termes de création de richesses, création d'emplois, sont très importantes. Mais vous avez raison, en pourcentage, du fait de leurs caractéristiques internationales, du fait de leur présence sur les différents continents, elles contribuent proportionnellement moins que les petites entreprises. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas grave, dès lors que on donne l'information et dès lors que lorsque l'on investit ou lorsque l'on finance, on a ça en tête et on ne l'oublie pas. Donc une approche effectivement qui, selon la taille de l'entreprise, va avoir et sa dimension internationale va avoir des effets différents, et puis des effets différents également selon les secteurs, parce qu'il y a des secteurs forcément où il n'est pas possible de tout localiser. On va produire de caoutchouc en France par exemple.
Non, a priori, enfin peut-être qu'avec le dérèglement climatique ce sera possible, mais en tout cas pas pour l'instant. Il y a la question de l'empreinte socio-écologico-économique des entreprises. Vous avez travaillé, vous l'avez dit, avec le Vertigolab dans une grande étude qui met en lumière la difficulté, le côté un petit peu contre-intuitif de il faut réindustrialiser, ça veut dire probablement polluer, ça veut dire potentiellement abîmer certaines choses. Comment on décorrèle le mot industrie et le mot empreinte avec un S, empreinte carbone, empreinte pollution, empreinte économique?
Alors, il ne faut pas être cynique. Lorsqu'on produit à l'étranger, il y a des émissions carbone. Donc, c'est parce qu'on le produit ailleurs qu'il n'y en a pas. Simplement, nous, on importe sur un certain nombre de produits, c'est des émissions importées. Donc, premièrement, en termes globaux, en termes mondiaux, ça ne change pas. Ça change cependant une chose, c'est que plus c'est proche, moins il y a de transport. Et puis, accessoirement, en France, en Europe généralement, mais en France en particulier, nous avons des énergies, une énergie fortement décarbonée. Et puis, nous avons également des normes environnementales, des normes sanitaires, des normes sociales qui sont parmi les plus exigeantes. Et de ce point de vue-là, le fait de réindustrialiser, certes, on va localement émettre plus, mais on émettra moins au total et on cernera mieux ce qui est fait avec des stratégies qui permettront encore d'aller au-delà. Donc, si on veut maîtriser ces réductions au sens global du terme, et notamment sur la partie chaîne d'approvisionnement, qui est là où il y a le plus d'émissions, le fait de réindustrialiser permet de mieux maîtriser et de réduire que si, bien entendu, on laisse ceci à l'étranger.
Toutes les entreprises n'ont pas la même chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, vous avez composé un top 15 des entreprises avec la plus forte empreinte socio-économique. Je vous donne le top 5 pour ceux qui nous suivent en image, peut-être que vous allez le voir. Il y a Vivendi, donc près de 80% de niveau de Made in France. Safran, 66%. Sanofi, 60%. Airbus, 52%. Et Renault, 50%, pour parler du top 5. Comment on compare des entreprises aussi différentes de Vivendi, qui est très dans l'immatériel quelque part, et Renault, qui est dans les choses qu'on peut toucher du doigt?
Alors d'abord, le secteur industriel est celui qui crée le plus de richesses. C'est là où il y a le plus de fabrication et donc, encore une fois, le plus de transformation. Mais vous avez raison, c'est compliqué. Le CAC 40 et les composites, il y a également tout le secteur financier qui est beaucoup plus difficile à appréhender parce que, bien entendu, il faudrait tenir compte de ce qu'il finance, de ce qu'il assure, etc. Donc, le CAC 40 est en composite multisectoriel. Ça permet d'apprécier les entreprises au sein de cet échantillon qui, proportionnellement à leur chiffre d'affaires, crée le plus de richesses. Mais ça permet aussi, au sein d'un même secteur d'activité, de pouvoir choisir les entreprises du CAC 40. Et d'ailleurs, nos études, nos travaux ne portent pas que sur le CAC 40. On a publié une étude sur le CAC 40, mais nous avons couvert toutes les entreprises, ou quasiment toutes les entreprises françaises de Euronext. Cela permet, au sein d'un même secteur, de choisir celle qui est la plus contributive. Vous parliez de Renault tout à l'heure. Renault contribue plus que Stellantis, deux fois plus de mémoire, à peu de choses près, en termes de création de richesse. C'est lié simplement au fait que on sait que Stellantis, c'est le rapprochement de Peugeot et de Fiat. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie du groupe qui n'est pas en France. Et de ce point de vue-là, cela réduit sa contribution par rapport à son chiffre d'affaires global. Donc, cela permet pour un investisseur qui souhaite investir 1 euro, de dire est-ce que mon euro contribue fortement, moyennement ou pas à l'économie française, et un titre pouvoir faire un choix. Puis il y a une deuxième idée derrière ceci. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui détient une capacité de vote, d'engagement. Ça permet aussi de pouvoir solliciter les entreprises sur ses stratégies. Dans l'industrie du luxe, il y a trois entreprises du luxe dans le CAC 40. On voit bien que Hermès, du fait de sa stratégie particulière de travailler avec des artisans français, etc., avec une filière d'approvisionnement assez française, réussit mieux en termes de création de richesses nationales que Kering ou LVMH, même si ces derniers contribuent plus en valeur absolue. Cela permet, encore une fois, de pouvoir avoir cette information, demander en assemblée ou au travers, lorsqu'on est avec des investisseurs professionnels, de pouvoir avoir des réponses par rapport à ces stratégies de réindustrialisation.
Bon, à vous écouter, investir dans la France, c'est investir finalement dans des entreprises qui sont encadrées pour décarboner, avec des normes exigeantes. Donc si on est très concerné par les sujets ESG, en fait finalement, être actionnaire des entreprises françaises, c'est la meilleure manière d'être engagé.
Alors ça, c'est un choix d'investissement qui ne m'appartient pas. Nous, ce que nous cherchons à apporter, ce sont des informations aux investisseurs particuliers comme professionnels qui leur permettent de faire des choix en fonction de leur stratégie, de leurs convictions, de du type d'épargne, du type de risque qu'ils sont prêts à prendre et de leur sensibilité. En l'espèce, il y avait un trou dans la raquette. On est capable d'avoir de l'information financière, on avait de l'information ESG, environnement, social, gouvernance, mais on n'avait pas cette notion de contribution à l'économie. Or, c'est une thématique importante. Post-Covid, on l'a vu, il y a cette volonté de réindustrialiser. On sait très bien, on en parle en ce moment, que nos finances publiques, le financement de notre système social, il est très lié à la capacité de créer de la richesse et de l'emploi en France. Si ça intéresse l'investisseur, avec cet outil, avec ces indicateurs, il va pouvoir orienter son épargne vers plus de création. Ce qui est vrai pour le particulier, il est vrai également pour les institutionnels qui pourraient privilégier dans des stratégies d'investissement les entreprises les plus contributives. Être français, c'est pas nécessairement créer des emplois en France. Voilà.
Il y a, on parle des investisseurs particuliers, peut-être parmi ceux et celles qui nous écoutent, des moins documentés, des moins experts, une certaine peur à investir dans les entreprises. Alors, on va pas parler du PEA, etc., mais le rapport à l'actionnariat, le rapport à l'investissement dans les entreprises, il est pétri de préjugés. En préparant cette émission, je parlais avec une de mes collègues ici dans le groupe, qui n'est pas journaliste économique, et qui me disait, moi, je ne veux mettre de l'argent que dans l'immobilier. Oh, j'ai trop peur de perdre mon argent en bourse. Et j'ai essayé de lui expliquer que, globalement, miser sur le CAC 40, c'était 40 entreprises françaises, certaines très internationales. Donc, a priori, il y avait peu de chances que ces 40 entreprises fassent faillite en même temps. Donc, en fait, pondérer, c'était très probablement beaucoup moins risqué que d'aller investir dans un appartement qu'elle allait mettre des années à rembourser. Cette peur des entreprises et cet amour de l'immobilier hybride quand même beaucoup de flux d'épargne vers notre économie. Comment on peut essayer de rassurer un peu et de populariser l'investissement dans le CAC 40 et puis dans les entreprises en général, Xavier ?
Alors, je vais répondre en sortant un petit peu de mon cadre, mais ça fait référence à des expériences que j'ai pu avoir étant un ancien d'Euronext et historiquement en ayant beaucoup travaillé.
Vous avez été directeur d'Euronext.
Absolument. Et j'ai vu d'ailleurs avec déception une réforme qui allait supprimer l'allocation spécifique pour les investisseurs particuliers dans le cadre des introductions en bourse.
Ça ne sera plus obligatoire d'avoir 10% d'investisseurs particuliers dans les introductions.
Et ce qui est dommage parce que c'était une façon de réserver ou de permettre aux particuliers d'accéder aux opérations. Peut-être que l'extra financier, ces aspects de conviction vont pouvoir relier deux aspects. L'investissement en actions, c'est risqué. Il n'en demeure pas moins vrai que ne pas avoir d'un portefeuille diversifié, c'est risqué aussi. Vous l'avez dit à l'instant, on dit toujours, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. L'intérêt de l'investissement dans les entreprises, et c'est probablement un élément vraiment très très important dans cette période où il faut les aider à faire cette transition, et surtout si on a une transition avec une réindustrialisation, c'est permettre aussi aux investisseurs, au-delà de cette crainte qu'ils peuvent avoir, de dire « mais je participe malgré tout à quelque chose qui est positif, à une action d'investissement qui va être de nature, comme je le disais tout à l'heure, de nature à maintenir nos finances publiques, de maintenir de l'emploi, de maintenir nos capacités sociales, etc. » Et c'est pas rien parce que l'extra-financier, vous savez, il y a en ce moment des discussions entre l'Europe qui est fortement sensible à ces sujets avec des paquets réglementaires très importants, et puis l'Amérique du Nord ou les BRICS qui tiennent moins compte, on va le dire de façon très légère, de ce type de sujet. Et derrière cette double matérialité qui est de dire il faut qu'on tienne compte de l'impact que l'on a sur l'environnement et les parties prenantes externes, et notamment ce que les entreprises font dans un système économique tel que le nôtre, le fait d'y participer, d'y contribuer, c'est quelque part de protéger aussi un modèle, une organisation de notre société qui est différente et à laquelle, il me semble, beaucoup de Français sont attachés. Donc, quelque part, investir dans les entreprises et sous les réserves d'usage, etc., c'est aussi une façon de contribuer positivement à tout ceci et ne pas le faire, ne faire que de l'immobilier ou laisser sur des livrets, ne contribue pas de la même façon dans le long terme à cette nécessité d'investissement pour la transition, la réindustrialisation et quelque part le maintien de notre système.
Voilà, on pourrait discuter et vous poser des questions pendant encore une demi-heure, Xavier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur l'investissement pour soutenir notre pays, sur l'éducation financière, le rapport au tissu économique, à l'entrepreneuriat. Vous reviendrez nous voir
avec plaisir.
Avec votre double casquette. Eti Finance, qui outille les entreprises, voilà, sur tout ce qui est donné pour pouvoir mieux faire ses choix d'investissement à long terme. Et puis vous l'avez rappelé, hein, ancienne casquette casquette d'ancien directeur d'Euronext, qui vous donne évidemment une vision aussi au-delà de notre petit scope d'investisseurs particuliers.